Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
C'est l'heure, bonjour, c'est l'heure de la grande chat, le rendez-vous politique du mensuel Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Nous recevons aujourd'hui trois invités. Olivia Fortin, directrice production événementielle et porte-parole du collectif Mad Mars. Bonjour.
Bonjour.
Fatima Mostefaoui, militante dans les quartiers nord de Marseille et coprésidente de Passons-nous National. Bonjour.
Bonjour.
Et Kevin Vacher, militant associatif, membre du collectif du 5 novembre et doctorant, c'est bien ça?
Exactement. Bonjour.
Alors, trois invités pour une seule thématique. Quel engagement et participation dans le débat politique local de la société civile? Avec moi pour animer cette émission, Michel Guéraud. Bonjour.
Bonjour, Rafi Amal.
Aujourd'hui, un petit peu différent. Pas de portrait d'invité, Michel?
Non, juste un petit lancement. Alors, on y va. Il y a eu le temps de la sidération, celui d'un 5 novembre, avec la mort, rue d'Aubagne, à Marseille, de 8 victimes de la violence sociale qui pèse sur les plus pauvres, confinés dans des logements insalubres et indignes. Il y a eu ensuite le moment de la colère, celle de milliers de Marseillais délogés suite à des arrêtés de péril, mais aussi celle d'une ville exaspérée par ses écoles délabrées, ses quartiers délaissés, ses élus déficients, ses services publics trop souvent hors service. Et voici que collectifs, associations, mouvements multiplient appels et initiatives pour que vienne le temps de l'espoir. Celui d'obtenir vérité, justice et dignité. Celui d'une Marseille plus juste et solidaire. Celui d'habitants sachant se fédérer pour peser et se faire entendre. Vaste programme. Pour l'aborder, il n'en fallait pas moins de trois invités. Donc Fatima Mostefaoui, vous êtes coprésidente des Passons-nous, on l'a dit, le syndicat des quartiers populaires né il y a déjà 4 ans. Médiatrice sociale, vous êtes aussi une des figures du militantisme associatif de la cité des Flamands au nord de Marseille. Olivia Fortin, vous êtes porte-parole du collectif Mad Mars, marseillaise depuis plus de 10 ans, chef d'entreprise. Vous êtes par exemple à l'initiative de Viens voir mon taf, le réseau des jeunes sans réseau, pour aider les collégiens en zone d'éducation prioritaire à trouver des stages motivants. Kevin Vacher, vous êtes un membre très actif du collectif du 5 novembre, Noailles en colère. Tour à tour militant, travailleur social, enseignant vacataire, vous préparez une thèse de sociologie où il est à la fois question de Marseille et de Naples. Et vous habitez rue d'Aubagne depuis 7 ans. Le collectif Mad Mars, qui réunit citoyens, militants et experts, appelle à une alliance entre mouvements citoyens et élus progressistes pour un changement à la fois radical et réaliste, je cite, dans la manière de gérer Marseille. Les Passons-nous 13 et le collectif du 5 novembre ont co-signé le manifeste pour un Marseille vivant et populaire afin que se fédèrent, se tissant les solidarités qui tiennent Marseille debout. Vaste programme, nous le disions.
Maintenant qu'on a fait connaissance avec nos invités, première question. On est depuis des semaines dans une agitation sociale inédite en France. Le débat national pour tenter de répondre à ce malaise matérialisé par les gilets jaunes est en cours. Est-ce que vous avez l'impression d'être pris en compte et à travers vous, les problématiques que vous défendez? On va commencer avec vous, Madame Fortin.
Ce mouvement national a pour moi beaucoup de liens avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui à Marseille. Quand on entend crier les gilets jaunes, on entend crier un appel dans le mode de gouvernance qui existe dans notre pays. Et pour moi, il y a un lien très fort avec ce qu'on vit dans notre ville. Aujourd'hui, les maires sont ceux qui, d'après le Cevipof, ont le plus de confiance encore de la part des Français. Plus on est proche, plus on a la confiance. Et pourtant, on a l'impression que nos centres de décision s'éloignent, que les régions s'agrandissent, qu'on se métropolise, qu'on fusionne des communes. Donc aujourd'hui, pour moi, ce lien très important à renouer entre les institutions et les citoyens, c'est quelque chose qui doit se jouer au niveau des villes et on a vraiment quelque chose à réinventer ici pour ça.
Kevin Vacher, ce grand débat, c'est quelque chose qui vous est étrange, qui vous est proche? Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaiteriez, que vous auriez aimé que l'on débatte?
Je pense que le grand débat, c'est une opération d'Emmanuel Macron pour réinstitutionnaliser, réencadrer la mobilisation des Gilets jaunes sur un terrain qui est le sien, avec un aspect très jupitérien qui est le sien. Faut regarder les effets locaux ensuite. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit on va s'emparer de ça, et y compris des gens de la société civile qui ont organisé des grands débats. À Marseille, très peu au final. Les députés LREM concrètement font pas grand chose autour de ça. Samia Ghali a organisé son grand débat la semaine dernière dans les quartiers nord, dans sa mairie de secteur. C'est intéressant de regarder comment est perçu le grand débat à Marseille et de regarder du coup le lien entre ce qui se passe politiquement à Marseille, la mobilisation, les deux mobilisations en cours, celle sur le logement, le droit à la ville, et celle des Gilets jaunes. De regarder ce qui se passe à Marseille, regarder ce qui se passe en France en même temps. Et le débat organisé par Samia Ghali, il est assez criant à ce niveau-là, c'est que c'est des demandes extrêmement locales. alors c'est assez normal que les gens repartent de leur vie quotidienne, mais qui s'adressent aussi à des acteurs locaux, les adresses, les interlocuteurs vers qui se sont projetés les gens à ce grand débat de Madame Galli, ce sont les élus municipaux. Donc il y a vraiment une crise politique locale à Marseille qui prend le devant, à certains égards, sur la crise politique nationale.
Madame Assefaoui, vous partagez ce constat ?
Moi, je partage, mais il y a des choses aussi qui sont dans le passé. Toutes les revendications qu'on a aujourd'hui à Marseille ou en France, elles seront revendiquées depuis des années. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Hier, c'était Hollande. Avant-hier, c'était Sarkozy. Donc, la France, elle va de plus en plus mal. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on devrait réinventer une politique, mais une politique citoyenne. Parce que je pense pas que ces grands débats vont rapporter quelque chose, parce que chacun, comme le disait Kevin, parle de l'endroit où il vit. Et peut-être aussi réinventer une politique où le citoyen est pris vraiment en compte et qu'on parle plus à sa place. Donc à un moment, comment on se place et comment on fait les choses ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en France, il y a des choses à réinventer.
Michel Garraud ?
Oui, pour prolonger la question, on parle du grand débat, mais les Gilets jaunes, il y a eu quelques convergences dans des moments de manifestation sur Marseille, notamment. Votre regard là-dessus, il n'y a pas eu non plus de figures comme dans le Vaucluse, par exemple, ou ailleurs, hein, Gilets jaunes qui ont émergé dans le 13. Des convergences ont eu lieu, selon vous ? Elles étaient souhaitables ? Elles seraient souhaitables ?
On y a assisté à ces convergences pendant les marches organisées après les effondrements de la rue d'Aubagne. On a vu des cortèges se rejoindre et se mélanger de gilets jaunes, de syndicaux et de personnes qui manifestaient pour un droit au logement digne. Donc c'est des choses qui convergent naturellement chez nous de façon spontanée, je pense.
Ouais, il y a eu la marche du 1er décembre où le cortège des Gilets jaunes a clairement convergé, et pas seulement, hein, le cortège en effet de l'intersyndicale aussi qui a convergé à ce moment-là. D'ailleurs, c'était la première fois que ces deux cortèges-là se joignaient ensemble, ce qui va être édité ensuite depuis presque deux mois avec une CGT qui travaille avec les Gilets jaunes. Ça s'est fait autour de la question du logement. Et en fait, le moment où les Gilets jaunes, et on voit la même chose à Paris, et notamment dans les quartiers populaires de la banlieue parisienne, le moment où les Gilets jaunes y grossissent, c'est aussi le moment où ils s'ancrent dans des questions très concrètes qui sont portées en réalité depuis très longtemps par des acteurs que nous sommes et que d'autres sont, des choses très concrètes sur la thématique du logement par exemple, qui est quand même la thématique qui unit tout le monde de fait, c'est une question qui préoccupe tout le monde, et c'est là où les cortèges des Gilets jaunes y grossissent. Et de la même manière, à l'inverse, nous on a tout à gagner à ce que les Gilets jaunes nous rejoignent. Après c'est compliqué, les Gilets jaunes c'est un mouvement très protéiforme et c'est très compliqué d'avoir un dialogue avec le mouvement en lui-même. Moi je me suis déjà rendu à des actions des Gilets jaunes, à une assemblée générale des Gilets jaunes. Le dialogue il est assez spontané et naturel en réalité. Hein.
Ce malaise entre le citoyen et le politique, Fatima Mustafaoui, est-ce que finalement c'est pas la résurgence de quelque chose qui est plus profond, les quartiers nord par exemple, est-ce que les quartiers nord se sentent investis, est-ce qu'ils prennent part tout simplement à ce débat?
Je pense qu'il y a des gens dans les quartiers nord qui vont dans les débats qui sont organisés, il y en a d'autres qui n'y vont pas. Je pense que dans les quartiers nord, il y a eu une histoire politique aussi. Il y a une histoire politique, il y a une histoire de tous les jours, il y a une histoire associative qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ne vont plus dans les débats parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien qui va changer, puisque dans les quartiers nord, il y a pas grand-chose qui change.
Et sur les ronds-points, est-ce que on n'a pas l'impression que c'était vraiment une histoire de quartier, ce mouvement ?
Non, sur les ronds-points, moi, quand les Gilets jaunes ont commencé, il y a eu sur le rond-point de Saint-Jérôme, il y a eu un samedi. Après, c'est vrai que du côté de plein de campagne, souvent, il y a des Gilets jaunes. Mais je pense qu'il y a des gens des quartiers nord qui vont, qui rejoignent les Gilets jaunes. Ils ne sont pas inactifs et il y a des gens qui se sentent concernés par ça, donc ils y vont. Moi, par exemple, je vais me faire frapper. Moi, je me sens pas concerné. Je n'irai pas dans une manifestation des Gilets jaunes parce qu'il y a trop de polémiques autour. Je préfère converger avec d'autres collectifs de Marseille que d'aller chez les Gilets jaunes parce qu'on n'a pas On ne sait pas qui est vraiment dans les gilets jaunes. C'est un peu compliqué. Pour moi, c'est compliqué d'aller me mettre à côté de quelqu'un qui vote le Front National. Et voilà. Donc, moi, j'ai besoin de savoir avec qui je converge. Je ne peux pas converger avec quelqu'un qui sort des noirs d'une voiture, qui lui crache dessus, qui le frappe, qui l'insulte, qui arrache le voile d'une femme. Donc, pour moi, le gilet jaune, ben, c'est un peu compliqué. Voilà.
Olivia Fortin, le ciment, le mécontentement, c'est pas seulement. C'est pas un ciment suffisant.
Effectivement, et moi, mon moteur, c'est l'espoir, et plus que la colère. Et la colère, on l'a tous ressentie de manière extrêmement forte. Et aujourd'hui, il faut tourner à l'espoir. Et effectivement, vous parliez de la déconnexion entre les politiques et les citoyens. À Marseille, particulièrement, on est tous des grands brûlés de la politique. Je pense qu'on n'en peut plus de ces politiques qui ont des passe-droits, qu'on trouve illégitimes. On a des affaires qui sortent aujourd'hui, enfin, qui sortent tous les jours dans la presse, qui démontrent l'incurie de nos responsables politiques. Et donc aujourd'hui, à Marseille, on est dans un champ très particulier à ce niveau-là de déconnexion, évidemment. Et pour moi, aujourd'hui, il y a une urgence à décloisonner les politiques des citoyens, parce que c'est tous ensemble qu'on doit faire avancer notre ville. Aujourd'hui, on est en face d'un champ de ruines. Mon seul espoir, c'est qu'on puisse s'y mettre tous ensemble pour pouvoir rebâtir notre ville à laquelle on tient tant. Aujourd'hui, moi, Marseille, je le vois comme le membre de la famille qu'on aime bien, mais qu'on aime même profondément, mais dont on ne supporte plus les défauts. Donc, si jamais on veut participer à la faire changer, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver.
Kevin Vacher, la société civile a vraiment un poids aujourd'hui ?
À Marseille ?
Mmh.
C'est en train de changer, en tout cas. Il y a quelque chose qui a basculé. Est-ce que la société civile avait un poids avant le 5 novembre ? Enfin, il y a deux périodes à laquelle on peut poser la question. Il y a l'avant et l'après le 5 novembre. Ce qui est certain, c'est que non, la société civile avant le 5 novembre n'avait pas réellement un poids pour plein de facteurs. Hein. Le facteur clientéliste, les relations entre les acteurs associatifs, les habitants, y compris certains syndicalistes aussi dans les quartiers populaires, elles étaient fondées, qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on tente d'y échapper ou pas. En tout cas, c'était ce rapport-là qui était imposé, c'était un cadre de contrainte. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Même les acteurs associatifs les plus sincères, les plus activistes, les plus militants, les plus politisés devaient s'affronter systématiquement à cette question de comment est-ce qu'on s'émancipe d'un rapport qui est construit comme celui-là et qui est même très spontané chez les élus quand ils rendent visite dans les quartiers. Hein, c'est la façon dont ils vont parler aux gens est construite comme ça. Donc même s'il n'y a pas de dons, de logement, d'emploi, etc., c'est la façon dont ils projettent la discussion. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc évidemment, ça a enserré tout le monde associatif, culturel de Marseille pendant des années. C'est quelque chose qui est en crise pas seulement à cause du 5 novembre, qui est en crise parce que le système clientéliste, il est en train de s'effondrer de lui-même, d'une part de par les affaires Guérini, Andrieux, etc., d'une part parce qu'on le voit avec les élections professionnelles dans les territoriales, hein, Force ouvrière qui perd 10 points quand même, c'est assez important. Il y a moins d'argent à redistribuer, moins de logements à distribuer, moins d'emplois à distribuer, donc de fait ça s'effrite. Ce qui manquait pour que réellement la société civile, les acteurs associatifs, etc. prennent leur place, c'est l'autre pan du problème, c'est comment est-ce que nous, on s'adresse à nous-mêmes, les uns aux autres, et comment est-ce qu'on fonde une force et qu'ils soient capables de proposer un autre modèle de relation du politique aux citoyens. Et ça, c'est ce qui se passe depuis le 5 novembre de fait. Ça s'appuie sur le fait qu'on se connaît. Je me souviens, en octobre, à l'Actab Café, il y avait une rencontre des collectifs de quartier qui avait été organisée. Donc, en fait, on parle du manifeste pour le Marseille vivant et populaire, mais on avait déjà commencé quand même à se rencontrer formellement et à imaginer une unité, une fédération des colères entre nous. Le 5 novembre, évidemment, fait basculer les choses parce qu'il y a une crise politique qui s'ouvre et toutes les cartes sont rebattues.
Olivier Fortin, cette transversalité, vous la ressentez également ? C'est la nécessité absolue ? On a vu qu'elle avait des petites victoires avec les PPP et autres.
Le PPP, c'est un exemple parfait.
Partenariat public-privé sur les écoles, hein, c'est ça pour...
Exactement. En fait, la mairie a décidé en octobre 2017 de faire passer une délibération qui pouvait laisser penser que de faire un partenariat public-privé pour rénover 34 de nos 444 écoles était plus intéressant que de le faire en maîtrise d'ouvrage public. Et malheureusement, la société civile et des experts s'en sont saisis et ont démontré très facilement que les calculs qui étaient proposés étaient basés sur de mauvais documents, de mauvaises bases. Et pour lutter contre ça, il s'est opéré une alliance inédite entre des experts de la société civile, entre de nombreuses associations, syndicats, et même les politiques sont venus servir cette cause en venant non pas imposer leur vision, mais en se mettant au service de cette cause. Et le résultat aujourd'hui est là, en fait. On réussit à avoir une décision du tribunal administratif qui montre que le PPP n'est pas une bonne solution pour la ville.
Michel ?
Fatima, il y a vraiment aussi, selon vous, un avant et après 5 novembre, quelque chose qui a changé, qui ne peut plus être pareil?
Je pense qu'il y a, à chaque fois, il y a eu des choses qui ont changé quand il y a eu des drames comme ça en Marseille. C'est vrai que le 5 novembre, par rapport à ce qui s'était passé à la rue d'Aubagne, là, je crois que c'était la goutte qui avait fait déborder le vase, parce que je pense que depuis des années, les gens se battent pour l'emploi, pour les logements. Et là, le 5 novembre, je pense que même si les personnes n'étaient pas concernées par ça, parce qu'à l'époque, on se battait, mais les gens ne se sentaient pas concernés, donc ils ne venaient pas aux manifestations. Là, je pense qu'il y a eu un mouvement en disant la rue d'Aubagne aussi, on est concerné, ça parle de victimes. Ça parle d'appartements insalubres, donc on est touché, donc ça a pris, et c'était la goutte qui faisait déborder le vase, parce qu'aujourd'hui, dans le collectif du 5 novembre, presque tous les collectifs de Marseille ont signé l'appel.
Ça a fait tomber la frontière entre le centre-ville et sa périphérie, et les quartiers au nord de Marseille en particulier?
Pas trop.
Pas 100%,
mais le problème dans des choses qui se passent comme ça et qu'il y ait des gens spontanément montent un collectif et font les choses, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut plus refaire. Par exemple, pour moi, le fait de m'engager dans le combat, ben je marche comme si je marchais sur des œufs, parce que j'ai pas envie d'être déçu, voilà. Mais je soutiens la cause, et il y a pas de souci si on doit venir manifester, on vient, on manifeste, parce que c'est quelque chose qui touche tout Marseille, et je pense que c'est quelque chose qui touche toute la France.
D'accord. Manifester et ensuite, donc il y a des appels qui sont lancés. Alors ce manifeste pour un Marseille vivant et populaire, Kevin, il liste des dossiers, mais qui sont immenses, en fait, qui touchent pratiquement tous les domaines de la politique municipale. Le logement, le transport, les écoles, l'éducation, l'écologie.
Les collèges.
La lecture, il y a énormément de choses qui sont listées.
C'est une chose de fédérer des colères, de réagir à une situation jugée intolérable et puis d'être pratiquement dans l'élaboration d'un programme. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Pour répondre d'abord à la question posée au tout début, manifester et après. Manifester et après gagner. C'est déjà comme ça la première chose qu'il faut arriver à faire. Le collectif Marseille contre le PPP donne un bon exemple. Un exemple d'unité, de mobilisation populaire à travers une pétition, à travers des actions publiques, un exemple de mêlée des experts, des syndicalistes, des parents d'élèves, en soutien populaire, des élus qui participent à la mobilisation, donc un vrai modèle de mobilisation en fait qui arrive à gagner en articulant à la fois la mobilisation politique et la mobilisation judiciaire. On a les habitants de Maison-Blanche qui, il y a 2 semaines, ont réussi à gagner le rachat et la rénovation de leur cité. Ça fait 1 ou 2 ans qu'ils étaient en cours de mobilisation. Les habitants d'Herbel qui ont gagné un combat judiciaire il y a environ 1 an. Donc il y a des victoires qui ont déjà été obtenues par ces mobilisations-là. Ce qu'on sait, c'est que ces victoires-là, on arrive à les gagner de manière sur un quartier, sur une cause. Nous, avec le collectif 5 novembre, j'espère que dans la prochaine semaine, on arrivera à gagner des droits pour les délogés qui soient structurés autour d'une charte de relogement qui est en cours de négociation avec le pouvoir public, et j'ai bon espoir qu'on arrive à gagner, parce que le soutien est tel que je pense que le pouvoir public sont obligés de lâcher quelque chose. Je pense que c'est la première chose à faire, c'est faire preuve, déjà, que ça fonctionne. Maintenant, on sait très bien, et l'exemple en cours, par exemple, du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui prévoit la ville de demain, grosso modo, hein, je le fais à grands traits, mais c'est ça. L'exemple du PLUI, c'est très compliqué de gagner sur un contre-projet d'une ville avec des espaces verts, avec des logements HLM en quantité suffisante, qui sont parmi les principaux problèmes de l'actuel PLUI qui est proposé par la métropole. Pour gagner à ce niveau-là, il faut forcément arriver à se parler et à parler à une échelle plus globale que celle du quartier, de la cause sectorielle, etc. Donc c'est ça l'objet du manifeste, en fait. C'est de pouvoir produire un discours politique, programmatique en effet, qui est un programme d'action pour tous les gens qui sont mobilisés actuellement, qui arrive à se projeter à l'échelle de la ville tout entière et d'arriver à penser la ville différemment. Donc gagner dans l'immédiat sur toutes les causes qui sont défendues les uns par les autres et se solidariser les uns avec les autres pour ça, parce que c'est ça qui fonctionne, c'est être solidaire, et ensuite arriver à se penser politiquement à une échelle plus globale.
Olivier Fortin, Mad Mars, créé en 2018, collectif citoyen progressiste. Il comprend également cette thématique, il parle au quartier Nord, il y a des gens des quartiers Nord qui sont à l'intérieur de ce collectif.
Alors en fait, nous, notre ambition en tant que Mad Mars, c'est d'être un outil au service du regroupement de tous pour que tous ces combats listés, effectivement, dans ce manifeste et qu'on évoque ensemble aujourd'hui, tous ces combats trouvent une issue politique. Pour nous, l'ambition, c'est d'être efficace et réaliste. La voie du changement passera pour nous par la voie des élections. Et c'est en étant unis qu'on pourra réussir à dépasser et à pouvoir reconstruire le champ de ruines auquel on fait face, le champ de ruines en termes de services publics et en termes de logement, et qu'on pourra avoir une meilleure justice pour tous.
Citoyen progressiste, Fatima Mostefaoui, ça vous parle ?
Non.
Peut-être, c'est un mot qui a été beaucoup utilisé. On a cherché mieux dans le dictionnaire des synonymes, on n'a pas encore trouvé. Peut-être que je peux vous expliquer ce que ça veut dire pour nous, le progressisme.
Expliquez-le à Fatima.
Alors, chère Fatima, aujourd'hui, pour nous, une urgence première, c'est de rénover le mode de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir s'exerce entre le pouvoir tout court et les citoyens. On veut plus de démocratie, plus de transparence et plus d'égalité. Ça, pour moi, c'est la base du changement qu'on doit pouvoir opérer. Et ensuite, à Marseille, on a aujourd'hui trois piliers importants que sont l'écologie, que est le développement économique de la ville et que est la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, on a l'impression que ces trois dimensions sont vécues les unes contre les autres. On fait le développement économique de la ville comment ? Par de la croisière qui fait quoi ? Qui pollue et qui pollue qui ? D'abord les quartiers nord. Pour nous, c'est insupportable. Et ce qu'on veut pouvoir rénover, c'est mettre en place quelque chose de beaucoup plus vertueux dans toutes ces dimensions-là, quelque chose de beaucoup plus inclusif pour tous. Pour nous, ça serait déjà un progrès énorme pour la ville de Marseille que pouvoir avoir plus d'écologie, plus de développement économique, pas n'importe lequel, un développement économique vertueux et plus de lutte contre les inégalités qui aujourd'hui fracturent cette ville.
Alors, convaincu, Fatima.
Non mais je me suis quand même renseignée et c'est très bien qu'elle ait expliqué comme ça, au moins que tout le monde comprenne. Je le savais déjà, mais le problème, ce qui est compliqué, hein, il y a eu 40 ans de laisser-aller dans les quartiers. Il y a eu 40 ans d'abandon dans les quartiers. Il y a eu 30 ans de clientélisme.
Vous ne pouvez pas dire ça non plus, parce que depuis 40 ans, il y a eu une dizaine de plans banlieues et des milliards d'euros qui ont été investis dans les banlieues. Il n'y a pas eu un abandon absolu non plus.
Non, il y a eu de l'argent investi dans les banlieues. Tout le monde a fait ce qu'il a voulu, mais les habitants ne participaient jamais à ce qu'on devait faire pour eux. Donc le problème aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont à la mode et qui sont à la mode depuis longtemps, participation des habitants, pouvoir d'agir, et que même nous, les associatifs, à un certain moment, on dit ben, faut faire le pouvoir d'agir, faut faire participer les habitants, mais nous, on fait toujours à leur place. Donc, à un moment, il faut se dire comment on peut aider les habitants à pouvoir réagir quand il y a quelque chose qui ne va pas, que de rester passif. On le voit, par exemple, sur le Grand Saint-Barthélemy, toi, tu y étais aussi, Kevin, il y a eu des rénovations urbaines qui sont faites. Quand il y avait des collectifs qui se battaient, eh ben, ils arrivaient à avoir le petit morceau de tarte. Ils n'avaient pas la tarte entière, mais ils avaient le petit morceau. Ils bataillaient parce que les choses, elles se faisaient. Mais ça se faisait toujours contre l'habitant. Pourquoi ? Parce que les choses, elles se font avant. Et ce qu'on a toujours dit dans le Grand Saint-Barthélemy, parce qu'il y en a beaucoup d'acteurs associatifs, qui ont toujours dit, les projets, il faut que ça se fasse avant. Aujourd'hui, avec Passant Nous, on essaye de pallier au fait d'habiter dans les quartiers populaires, quartiers en politique de la ville, et vous demandez à un habitant qu'est-ce que c'est un quartier en politique de la ville, il va vous dire je sais pas. Qu'est-ce que c'est un quartier prioritaire ? Donc moi je dis souvent que c'est de la faute, nous, les associatifs, qu'on sait ce que c'est la politique de la ville, on sait à quoi ça sert un délégué du préfet. Et toutes ces personnes-là qui sont dans nos quartiers, normalement, nos quartiers devraient aller de plus en plus... Il devrait avoir des choses nouvelles. Aujourd'hui, il n'y a que des travaux de partout. Vous avez Marseille est en travaux. Il n'y a pas de concertation réelle. Et aujourd'hui, ben, il y a les choses qui changent parce que depuis 2007, on est dans la concertation. Depuis 2007, il y a eu quand même quelques avancées. Il y a des choses qui progressent, Mais à un moment, c'est pas moi, Fatima Mostefa, oui, ou Kevin qui vont changer les choses, c'est les habitants qui vont les changer. Et comment on donne ce pouvoir aux habitants? C'est en les outillant, c'est pas en faisant à leur place. Donc à un moment, comment nous, les associatifs, on se positionne? Parce que aujourd'hui, moi, je vois dans les quartiers, il y a certains politiques et certains militants politiques se redonnent une virginité. D'accord? Mais la virginité, c'est pas possible. Quand on est plus vierge, on est plus vierge. La virginité, elle revient pas. Donc, à un moment, il faut arrêter. C'est remettre les choses à plat et se dire, voilà, il y a eu du clientélisme. Il y a eu ça. Je sais pas si je suis à droite. Je sais pas si je suis à gauche. Je sais pas si je suis extrême gauche. Je sais pas si je suis extrême droite. Comment on fait avec tous ces militants perdus? Parce que c'est du clientélisme. C'était question c'est question de place, d'appartement. C'est des enjeux qui sont difficiles à lâcher. C'est vrai, quand on voit des militants qui sont là parce qu'ils militent avec le cœur, on leur dit souvent, ouais, mais lui, il a quelque chose à. Il y a un intérêt derrière. Mais comment nous, les associatifs, on essaye de donner ce pouvoir aux habitants, de plus parler à leur place, de plus discuter avec le délégué du préfet à leur place, de leur dire, voilà, le délégué du préfet, ben, il faudra que vous discutiez avec les habitants. La politique de la ville, il faudra qu'elle discute avec les habitants. Comment nous, les habitants professionnels, comme moi, Kevin, sociologue, comme toi, comment nous, on laisse la parole aux habitants, mais de la manière qu'ils veulent parler, la manière qu'ils veulent s'exprimer, comment nous, on les outille. On devrait commencer déjà par ça. Et ensuite, les habitants, ils ont des cerveaux, et qu'ils soient du centre-ville ou du 9e, ils réfléchiront tout seuls, et là, ils décideront de faire une politique progressiste, être citoyen progressiste, et choisir, pas choisir une politique parce que je vais avoir un pouvoir là ou là. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler, même déjà entre nous dans les collectifs, comment on se partage le pouvoir, comment on se partage les tâches. Et c'est comme ça, c'est juste question de confiance, c'est question de remettre, de plus mettre la politique quand elle est... voilà, parce qu'il y a des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont très bien sur la ville de Marseille. Mais bon, ben, il y a le chef, il commande. Voilà, le chef, c'est le chef. Il faudra qu'on coupe la tête au chef. Il y a des choses qui... voilà, c'est des trucs qui sont...
Alors peut-être, Kevin Lachey, pour rebondir, il y a les intentions, mais il y a aussi le calendrier. Et le calendrier, est aussi, on le disait, il y a eu le 5 novembre avec une réaction, quelque chose qui s'est passé de fort et qui a fait bouger des lignes. Mais ça peut retomber. Et en même temps, il y a un calendrier. Il y a aussi un calendrier institutionnel. Il y a des élections qui arrivent, locales. Est-ce que cette dynamique que vous portez chacun avec vos collectifs et des manifestes qui vous rassemblent, elle est tenue par ça? Est-ce qu'il faut prendre le temps, comme le dit Fatima, de laisser mûrir les choses, ou est-ce que malgré tout il faut avancer et répondre à ces rendez-vous?
Mais je suis pas sûr que le
pour être entendu.
Pour le dire clairement, on parle du calendrier électoral. Est-ce qu'il va impacter sur les mobilisations citoyennes? Moi, je suis pas sûr que le calendrier électoral en ce moment se déroule comme prévu. Déjà, en fait, c'est déjà le cas. Il y a deux calendriers qui s'y opposent et qui rythment la vie locale d'une manière différente. Le premier, c'est celui de la mobilisation post-5 novembre et de cette fédération des colères qui s'est constituée autour du manifeste, des différentes manifestations qui ont eu lieu, des différentes actions qui ont eu lieu, qui ont systématiquement perturbé, y compris le calendrier des élus. Je ne suis pas certain que Mme Vassal avait prévu de partir en campagne aussi rapidement et de cette manière-là. Je ne suis pas certain qu'elle avait prévu de faire autant d'annonces, qui sont en fait des choses qui avaient été déjà budgétées, ou des semi-annonces qui ressemblent plutôt à des opérations de communication, comme les assises sur l'habitat, qui pour l'instant ne sont pas un grand succès au niveau de la méthode qui a été prévue. Je ne suis pas certain que Mme Vassal avait prévu de faire ça de cette manière-là. Je ne suis pas certain que lorsque, au vœu de la mairesse de notre secteur, Mme Bernasconi, le 9 janvier, on s'invite, nous les habitants, qu'on vient perturber le discours de Mme Bernasconi, en lui demandant des comptes sur le relogement des habitants, je ne suis pas sûr que c'était prévu comme ça. Son discours est un discours totalement préélectoral. Elle avait prévu de donner la main à Mme Vassal et de la féliciter pour toutes ses grandioses réalisations. Donc je pense qu'on a déjà perturbé beaucoup de choses déjà.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenoble.
La Grande Tchatch, le Ravi, Michel Guéraud.
Donc, le calendrier est perturbé. Pour autant, est-ce qu'il est transformé?
Il sera transformé si on fait en sorte qu'il le soit. Et il y a un deuxième calendrier qui perturbe l'agenda électoral des élus, qu'ils essayent de remettre en avant aujourd'hui. C'est celui de la question de l'habitat indigne de manière générale. Il y a un audit qui a été annoncé dès le 5 novembre par M. Castaner, qui sort totalement de ses compétences, qui arrive, qui débarque à Marseille, qui nous sort un audit sur 4000 logements, rien que ça. Il a préparé ça dans le train, dans le TGV Paris-Marseille, je ne sais pas comment.
Castaner est ministre de l'Intérieur.
Voilà, M. Castaner est ministre de l'Intérieur.
Ex-élu local.
Voilà, et il nous annonce que l'État va auditer l'habitat ancien. Et la méthode est reprise par une députée LREM là, récemment sur la question des écoles. Il nous annonce plein d'audits. Ça va aussi rythmer, à condition que nous on le prenne en charge, ça va aussi rythmer les prochaines années. En fait, on se projette là en dehors du temps électoral. Toutes les évacuations qui ont eu lieu, là on est environ à 2100 évacuations, personnes évacuées qui l'ont été, il y en a un parmi nous. Ces évacuations-là, on se bat aujourd'hui pour que les délogés aient des droits maintenant, mais aussi parce que pendant des années, ces opérations de renouvellement urbain vont avoir lieu. Donc ça veut dire des évacuations, ça veut dire des transformations des quartiers, ça veut dire des immeubles qui sont en péril, qui vont devoir être rénovés, des immeubles qui sont démolis actuellement, on ne sait pas ce qui va y être fait. Et ça, c'est un autre calendrier également. Et donc là, c'est deux calendriers sur lesquels les élus ne pourront pas s'en sortir comme ils le veulent et faire retomber les choses et revenir à la normale. À la normale, voulant dire à Marseille, revenir à une situation où les citoyens sont mis de côté, utilisés pour faire beau sur une liste électorale ou par le clientélisme. Et ça, je pense que si nous, on réussit à imposer que ça soit ces temps-là, donc les temps de la réalité des habitants qui soient au cœur de l'agenda, oui, ça peut transformer beaucoup de choses.
Olivier Fortin, le temps des citoyens, le temps des habitants de Marseille, c'est la fin aussi de l'étiquette politique. On ne peut plus être élu avec une étiquette. Il faut jouer aujourd'hui sans étiquette. Plus collectif.
Ce qui est certain, c'est qu'à Marseille, notre réalité dépasse les problématiques de parti. Je ne suis pas en train d'annoncer la fin des partis politiques, mais ce qui est certain, c'est que ces corps intermédiaires représentent aujourd'hui peu d'attrait, peu d'envie, en tout cas pour les gens que j'ai l'occasion de rencontrer.
Vous n'êtes pas seulement un pourvoyeur d'idées pour les partis politiques, vous voulez autre chose, non ?
Ah bien sûr, nous on se positionne clairement dans le calendrier électoral pour le coup. C'est l'approche complémentaire qu'on apporte au travail de fond qui est réalisé en ce moment par le collectif du 5 novembre ou le travail qui est fait par Passons Nous. On est clairement dans le champ électoral, on est à 400 jours des élections et pour nous il y a vraiment une urgence temporelle, une urgence temporelle à faire le lien entre tous les Marseillais pour qu'on puisse enfin se réapproprier notre ville, qu'on puisse ensemble construire quelle est notre vision de la ville, ce qu'on veut tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est bien sûr les quartiers populaires, c'est bien sûr les quartiers du centre. Et c'est aussi, pourquoi pas, certains patrons, certains bourgeois qui pourraient avoir des objectifs convergents et qui voudraient aussi plus de justice pour notre ville. Il y en a. Et pour nous, on s'inscrit clairement dans ce calendrier électoral parce que pour nous, il faut absolument faire cette union dès aujourd'hui pour réussir à arriver à cette liste unique qu'on souhaite pour faire face aux héritiers et à l'extrême droite dont on ne veut pas.
D'accord, alors Olivia Fortin, le progressiste, revenons quand même sur ce terme, ouais. Passionnant. On avait Bruno Gilles qui était dans ce studio,
oui.
Avant vous.
Il m'a dit lui-même qu'il était progressiste.
Et donc il définit sa campagne, clairement, il le dit à la presse, il le martèle, je suis une campagne progressiste. Donc il est dans, c'est aussi le terme avec lequel Macron a fait sa campagne. Donc si on a cette terminologie à l'échiquier marseillais, est-ce que ces élus avec qui il faut discuter pour changer Marseille, est-ce que ça va jusqu'à Bruno Gilles, jusqu'à aux élus LRM de la ville, est-ce que vous, quel est le cas dans lequel vous réfléchissez?
Donc encore une fois, nous, notre combat, c'est 80 ans d'un système qui n'a que trop duré et tous ceux qui l'incarnent, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et c'est aussi l'extrême droite. Pour nous, il y a une voie entre ces deux options. C'est une voie qui est ténue, mais qu'on pourra réussir à emprunter seulement si on y va tous ensemble.
D'accord.
Je ne suis pas sûr qu'on incarne le même progressisme que d'autres, mais dès que j'aurai trouvé un meilleur mot, je vous promets, je vous en ferai part.
Je ne sais pas. Alors, quand un Bruno Gilles qui est en campagne, hein, c'est un des rares qui est en campagne avec un dispositif, des programmes, etc., consulte, il va chercher les collectifs lui-même. Il dit, je vais faire un programme qui va être l'émanation de la société civile. Il a ce discours, lui aussi. Fatih Bouaroua, membre du collectif du 5 novembre, est consulté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il le soutient, attention, mais il est consulté par Est-ce que vous vous félicitez que des élus des plus classiques, hein, liés à la majorité sortante comme Bruno Gilles, disent on ne peut plus faire sans ce terreau associatif, ou est-ce que vous dites oulala, ça sent mauvais, on va se faire enfariner une fois de plus?
Non mais Vous dites les élus font des programmes et vont les proposer. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est venir avec une feuille blanche, parce qu'il y a plein de problèmes à Marseille. Il faut venir avec une feuille blanche parce qu'ils ont été élus pendant une décennie et il y a pas eu, il y a rien eu. Donc il faut qu'ils reviennent, Monsieur Gilles ou d'autres, avec une feuille blanche et on écrit avec eux. Ça veut dire les collectifs, les habitants, et on écrit avec eux le programme. S'il arrive avec une feuille, avec un rapport, et nous dire voilà ce que je vous propose, ben non, il ne me le propose pas. Il me demande de le travailler avec lui. Là, c'est différent. On vient pas, on va pas changer les choses en disant on a écrit des programmes. On va changer les choses quand on va dire on écrit les programmes ensemble. Comment on voit Marseille ensemble? Parce que dans les quartiers nord, vous êtes mis de côté. Dans le centre-ville, on vous a abandonné. Vous êtes dans des appartements insalubres. Dans le 9e, vous n'avez pas de bus le dimanche, ça j'en doute. Vous êtes abandonné. Eh ben, comment on fait pour travailler, pour qu'on fasse un Marseille uni? C'est un Marseille uni. Ça veut dire comment on fait pour travailler dans les commissions d'attribution pour plus qu'on fasse des ghettos, que tout le monde du centre-ville, on les monte de la rue de la République, on les monte à Frévalon, on les entasse. Comment on travaille ce système-là? Comment on travaille une ville? Sur les papiers sur la rénovation urbaine ou sur les programmes de rénovation urbaine, on voit de la mixité. Moi, la mixité, je la veux pas de 8h à 17h. La mixité, je la veux 24h sur 24 et 365 jours. Je la veux pas que les jours de semaine. Donc, comment on fait pour travailler cette mixité? Comment on donne envie aux gens de venir habiter dans le centre-ville ou dans les quartiers nord? On ne travaille pas un programme tout seul. Pour moi, c'est du pipi de chat.
Kevin Bachet,
pour donner un exemple juste sur les assises de l'habitat, Madame Vassal, là, qui sont en train d'être organisées, parce que je suis désolé, c'est un peu ma marotte en ce moment, parce que ça m'agace terriblement cette histoire-là. Madame Vassal, alors, il y a certaines réalisations, comme le permis de louer, par exemple, qui va être expérimenté à Noailles, à la fin de l'année. On ne sait pas avec quels moyens pour le faire respecter, etc.
Depuis 2014, ils pouvaient le faire avec la loi Allure.
Et donc c'est une très bonne chose, à condition qu'elle soit réellement appliquée avec les moyens qu'il le faut, parce que des dispositifs réglementaires, législatifs, il en existe plein. La question toujours, et à Marseille c'est particulièrement le cas, c'est comment on le met en œuvre concrètement et quels moyens de contrôle on a là-dessus.
Donc, 130 000 transactions immobilières, vous pensez que c'est impossible à vérifier?
Ah si, c'est très possible, il y a d'autres villes qui le font, mais il faut mettre les moyens, il faudrait renforcer les services techniques par exemple. Ce qui n'est toujours pas fait. Aujourd'hui, d'après les nouvelles que j'en ai eues, il y a un architecte qui a été embauché par la métropole pour faire office d'homme de l'art sur les expertises. Bon, c'est clairement pas suffisant, mais elle fait un autre truc qui sont les assises citoyennes. En mode, on va laisser parler les citoyens, on a 25 millions d'euros de budget pour financer des projets qui viennent de la société civile, etc. C'est organisé premièrement dans des délais extrêmement courts, on parle du mois d'avril. Comment vous voulez, en aussi peu de temps, donc 2 mois, arriver à organiser quoi que ce soit qui soit correct avec des réelles discussions sur le terrain et pas que avec, Fatima le disait, quel est le rôle des acteurs associatifs, nous, pour justement permettre la parole des habitants. Mais justement, si on se retrouve coincé, nous, acteurs associatifs, militants, avec les institutions, nous-mêmes, on participera à quelque chose qu'on ne veut pas. Deuxièmement, on nous parle dans ces assises citoyennes d'une enquête qualitative, je cite, destinée à faire remonter la parole des habitants, les préoccupations, etc. Là, c'est le sociologue qui parle, c'est un sketch total. On parle d'une 70 vidéos d'une vingtaine de minutes organisées avec, en gros, le réseau associatif de la métropole. Ça n'a rien à voir avec une enquête. Et un questionnaire, je ne sais pas si vous l'avez rempli, leur questionnaire, c'est un recensement en 5 pages vous habitez où, vous êtes content ou pas content. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on fait remonter des contributions et qu'on crée du débat citoyen. Donc quand ils parlent, c'est Fatima le disait tout à l'heure, hein, quand ils parlent de débat citoyen, de faire remonter des propositions, de les formuler politiquement, de les mettre en œuvre, etc., c'est un lamentable sketch, ce truc, en fait, quoi.
Olivier Fortin, prendre le stylo, marquer les doléances, ça va être très très long, selon vous?
Oui, mais c'est un travail nécessaire. Donc, il va falloir effectivement l'articuler, comme l'expliquent Fatima et Kevin, et faire en sorte
en
que ça soit utile.
En ayant pour horizon, quand même, 2020...
Ouais. Alors nous, on est justement, enfin, pour parler de MadMars et de l'outil qu'on est en train de mettre en place, on s'inscrit dans une méthode de concertation comme un accélérateur. On se voit comme un outil au service de ça, mais en s'adressant directement aux collectifs et aux habitants de la ville de Marseille, sans filtre entre les deux, pour que les gens puissent se parler directement et inscrire ensemble quelles sont leurs priorités pour la ville, et en animant les débats et en leur donnant un lieu pour exister, on pense qu'on peut aboutir à quelque chose. chose.
Est-ce que des élus, alors ces fameux élus progressistes auxquels vous vous adressez aussi, hein, il y a les deux bouts, vous essayez de tenir les deux bouts avec ce collectif, est-ce que votre appel est entendu? Donc là, on a parlé de deux élus autour des PPP écoles, hein, je pense à Payan et à Coppola, qui est PS et PC, au conseil municipal représentés, et qui ont fait le relais de revendications. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui jouent le jeu? Est-ce que, par exemple, les députés LRM sur Marseille, qui se situent plutôt dans la critique pour l'instant de la municipalité sortante, vous écoutent? Ou est-ce que vous prêchez un peu dans le désert? Enfin, où ça en est là? Parce que vous le dites vous-même, ça va vite, les échéances approchent.
Eh bien, figurez-vous qu'à Marseille, je pense que beaucoup ont conscience que personne ne peut gagner seul. Et dans toutes les discussions qu'on peut avoir, c'est effectivement quelque chose de très présent. Il y a cette conscience que Marseille doit se réinventer autrement. Si même Bruno Gilles, qui pendant 25 ans a exercé le pouvoir de la manière qui a été celle de Jean-Claude Gaudin pendant toutes ces années, si même lui parle de concertation citoyenne et de construire la ville autrement. Donc lui aujourd'hui travaille avec 90 experts, il travaille pas forcément avec les habitants directement, mais si même lui parle de ça, c'est qu'on a conscience que la ville doit se réinventer autrement, enfin, et se rebâtir avec les forces de tous.
On voudrait pas vous refroidir un peu, mais enfin avec Michel on est suffisamment vieux pour avoir reçu ici la plupart des hommes politiques durant les échéances électorales. Ils nous ont tous dit la même chose, ce que vous venez de dire en l'occurrence, hein. Il faut travailler avec les habitants, il faut faire un brainstorming municipal commun, quartier nord, quartier sud, l'est, l'ouest. Donc ouais, c'est pas quelque chose qui est nouveau.
C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais je pense pas que les politiques soient eux-mêmes capables de le lancer, de le proposer et d'être entendus. Aujourd'hui, nos responsables politiques sont finalement assez peu audibles. Si au contraire, on fabrique cet objet politique entre nous, qu'on fabrique cette force et qu'ensuite on met en place la méthode pour pouvoir aller ensemble rassembler les politiques éclairées avec lesquelles on a envie de travailler, et bien là on inverse le rapport de force et nous on se réapproprie notre manière de voir la ville.
Oui, peut-être, j'allais vous donner la parole, Fatima, mais il y a une tension autour de cette histoire de politique et comment on fait de la politique sans se faire enfariner, pour dire les choses comme ça. Vous avez vous-même, à un moment donné, mis un doigt de pied un peu plus que ça dans la mécanique, puisque vous étiez au dernier municipal sur une liste, celle de Papé Diouf, qui était aussi dans ce studio, hein, il y a quelques années. Bon, ça n'avait pas été extraordinaire en termes de score. Ouais. 8% dans
la première fois,
ça
fait 8. C'est bien. Hein, voilà. Bon, voilà. Par rapport à d'autres.
C'est une mésaventure pour vous avec la distance. Vous pensez qu'il faut retenter ça? Il y a des villes qui l'ont fait. Je pense en Espagne, Barcelone, Madrid. Il y a eu des alternatives, des alternances politiques avec des sociétés civiles qui a su se rapprocher de certains élus. Puis il y a des maires comme ça, il y a des villes, des grandes villes en Europe qui ont été emportées dans ce type de dynamique. Papé Diouf, ça n'a pas vraiment marché à Marseille. Est-ce qu'il faut retenter qu'est-ce que vous pensez de
Alors, juste pour dire, Papé Diouf, on a commencé la campagne avec 2 mois de retard. On a perdu quelques points. Hein, faire 8, quand c'est pour la première fois, c'est très bien. Moi, Papé Diouf, ça a été une aventure extraordinaire parce que j'avais envie de m'engager politiquement, mais pas dans des listes avec des partis politiques, parce que je ne serais jamais partie à gauche, ni à droite, ni à l'extrême gauche, et certainement pas à l'extrême droite. Ça a été une expérience politique, et je pense que dans tout Marseille, il y a des gens qui sont capables de porter des listes. Et comment on porte ces listes? Et avec qui on les porte, ça va être un peu plus compliqué. Parce que aujourd'hui, les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont toujours eu le même discours. Ça fait 40 ans qu'on est dans la même panade ici à Marseille. Je pense qu'à un moment ou un autre, nous, les citoyens, qu'on soit d'extrême gauche ou de gauche ou de droite, peut-être que c'est à nous de réinventer cette politique. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se donnent, ils essayent d'avoir une virginité, mais ça va pas être possible. Aujourd'hui, dans nos quartiers, quand vous avez des gens qui viennent dans nos quartiers pour nous dire « je suis pour les pauvres, je suis », et quand on vote les lois contre les manifestants, on n'a plus le droit de manifester. Donc comment je peux parler à quelqu'un qui vote à l'Assemblée une loi qui m'interdit de manifester ? comment cette personne-là peut venir me donner de leçons à moi, me dire, mais je suis avec vous. Comment ces personnes votent des lois contre les habitants pauvres? Et aujourd'hui, on se bat soi-disant pour les écoles. Moi, je trouve ça que... on a un discours hypocrite en France. Parce que ça, c'est la réalité. Je pense qu'à un moment, il faut poser les choses sur la table et dire, voilà, on est des citoyens engagés, on a envie de s'engager en politique, et comment on fait pour s'engager ensemble en politique? Et parce que ça aussi, ça fait peur dans les collectifs, quand il y a des mouvements politiques qui arrivent et qui sont sympathiques, hein, parce qu'on en connaît qui sont super sympathiques, on sait très bien de quelle manière ils se battent, mais le fait qu'il y a une machine politique derrière, ça freine beaucoup de personnes pour s'engager en politique. Et je pense que faire des listes citoyennes, moi je pense que ça serait quelque chose de, pas de nouveau à Marseille, mais voilà, c'est quelque chose de plus clair pour moi.
Alors, Kevin Vacher, peut-être un mot aussi, puis vous voyez venir avec mes gros sabots, mais vous avez été aussi dans une démarche politique avec l'étiquette NPA, législative.
Mmh. Score, ah, mais j'ai fait mieux que lui, moi.
Un peu inférieur à celui de Mélenchon, dans la même circo. C'était 0,5, ouais. Je crois, quelque chose comme ça.
Un peu comme ça.
Ouais, un peu moins d'un pour cent.
C'était pas l'objectif, l'objectif n'était pas d'être élu, l'objectif était d'avoir un discours politique dans un temps électoral, c'était en 2012.
Alors, cette question-là de la politique, avec les politiques, est-ce qu'on peut s'en passer complètement ou est-ce qu'il faut, il faut y aller aussi, une liste citoyenne est-ce que c'est hors champ, c'est dans la discussion, c'est le truc à pas faire, il faut le faire.
Bah, moi, à titre très personnel, je vous donne ma réponse et mon avis là-dessus. Moi, je travaille sur Marseille et Naples, vous l'avez dit au début. Naples, c'est une expérience, par exemple, où on a un maire qui est issu des mobilisations anti-mafia, qui est un magistrat, une figure politique locale, qui est arrivé autour de lui à réunir des centres sociaux, des mouvements autogestionnaires, des franges de la société civile, y compris de la bourgeoisie intellectuelle locale, et à prendre la ville sans faire usage ou peu usage, en tout cas, des partis politiques traditionnels. Il y a l'exemple de Barcelone, de Madrid, etc. Je pense que l'échelon local, évidemment, il est extrêmement important pour changer la vie des gens et la politique d'une ville. Ça, c'est absolument évident. Est-ce qu'à Marseille, comme on parle Fatima, est-ce que c'est possible ou pas? Moi, j'en sais strictement rien. Je sais que beaucoup y pensent, je sais que beaucoup nous interpellent sur le sujet, je sais qu'y compris les élus nous interpellent sur le sujet, etc. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de préalables à réunir avant un tel projet, qui est de, aujourd'hui, sur quel agenda on se positionne. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en fait. Hein. Moi, je soumets la question électorale. Évidemment que la question politique est importante, mais comment est-ce qu'on la saisit? Est-ce qu'on la saisit que de manière électorale sur faire un coup, faire une liste et mettre des gens qui, certes, viennent de la société civile, mais qui, en fait, appliqueront les mêmes pratiques que les autres une fois arrivés au pouvoir? Ou est-ce qu'on se dit que l'agenda, aujourd'hui, doit changer, qu'on doit plus penser juste en termes électoraux et institutionnels et qu'on doit retrouver un autre point de centralité qui sont les mobilisations actuelles des habitants? Pour moi, c'est celui-là, le cœur du débat, c'est ces mobilisations qu'on n'a jamais vues à ce niveau-là à Marseille. Depuis le début des années 2010, il y a un nombre de mobilisations absolument énorme. C'est ça qui doit être au cœur de l'agenda politique. Pour moi, c'est ça la vraie question.
Olivier Fortin, vous sentez des accointances entre un extrême-gauche, NPA, centre-gauche pour les dernières élections avec Pape Diouf, et vous, qui êtes quand même, on vous voit plus proche d'un place publique de Glucksmann ou autre, non?
Bah, des affinités, il y en a évidemment. Enfin, je pense qu'on est, tous indignés de la même manière.
Est-ce que vous allez tous dans la même direction?
Alors, ce qui est certain, c'est que sur la question qu'on était en train d'évoquer il y a deux secondes, sur liste citoyenne tout court, liste avec des politiques, nous, justement, notre marque de fabrique, c'est qu'on est fou, on croit encore à la politique. On pense que la politique, ce n'est pas sale, on pense qu'il y a des responsables politiques éclairés avec lesquels on peut travailler sans aucun problème et que c'est seulement ensemble qu'on se donne une chance. On a vu les expériences de changer la donne. Moi, j'ai même participé à ça, mais après les élections municipales, on a vu les motivés à Toulouse qui bénéficient d'une force importante, puisque un seul secteur pour l'organisation de l'élection, une ville d'étudiants, une forte mobilisation de la presse, des figures emblématiques qui s'en mêlent et qui au final fait 10%, je crois. Donc je pense que si on veut vraiment se donner une chance de gagner, parce que moi c'est ça mon objectif, c'est pas seulement de participer au débat, si on veut se donner une chance de gagner, c'est seulement si on arrive à faire une liste tous ensemble en construisant un projet. C'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas une alliance de deuxième tour, c'est une liste forte, construite sur un projet fort dès le premier tour, qui soit cohérent et pas seulement de la manipulation, politique.
Kevin Vacher, ça c'est le schisme indépassable? Elle veut du concret, elle veut du politique, elle y croit encore. Vous dites, on va prendre le temps, on va maturer tout ça et puis pour amener les citoyens en mouvement.
Et en fait, moi, je j'ai pas forcément d'avis sur est-ce qu'il y aura des listes citoyennes ou pas aux prochaines élections, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Ce que j'essaie de dire, c'est, en fait, il y a un, comment dire, le problème, il est beaucoup plus profond que qui est élu, en fait, à Marseille. On parle de pratiques politiques, de pratiques clientélaires, de pratiques de concertation notamment dévoyées. On retrouve ça à Marseille et ailleurs en France, de toute façon. Hein. On changera pas en une élection ce système politique local. C'est, je pense qu'on est tous conscients de ça. Donc la question, et du coup elle se traduira en termes électoraux, en termes de mobilisation, en termes de prise de parole d'intellectuels, elle se traduira à différents niveaux institutionnels ou dans différents secteurs de la société civile. La question c'est quelle lame de fond on arrive à constituer, et pour moi la mobilisation post 5 novembre, mais qui s'est préparée en réalité avant le 5 novembre, et qui est le fruit d'années en fait de batailles et de relations entre nous, pour moi c'est de là que peut venir cette lame de fond. Et de toute façon, il n'y aura pas de changement de pratique politique sans qu'on s'intéresse à cette question-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, certains ont des stratégies plus de constituer des collectifs de mobilisation d'habitants que ce qui est la mienne. Fatima et dans En passant nous, c'est aussi une autre forme de mobilisation. Olivia est sur quelque chose de directement électoral. On a différents objets, outils de mobilisation. Je pense que ce sur quoi on est d'accord, par contre, c'est que la lame de fond, elle viendra ni d'un endroit ni d'un autre, et elle sera beaucoup plus, elle doit être en tout cas.
Mais je pense même pas qu'on s'oppose. Je pense qu'on est complémentaires, au contraire, par rapport aux chantiers énormes auxquels on fait face finalement.
Il y a juste il y a des moments, même là aujourd'hui en politique, vous avez des hommes et des femmes politiques qui sont indignés par rapport à ce qui se passe. Je pense que c'est juste être juste et correct. C'est de voir qu'il y a des hommes politiques qui s'indignent sur ce qui se passe aujourd'hui à Marseille. Il ne faut pas les prendre et les jeter à la poubelle. Quand tu dis travailler avec les politiques, bien sûr qu'il faut qu'on travaille avec eux. Et peut-être les amener aussi à faire le changement. Peut-être qu'ils n'ont pas le déclic pour faire le changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on ne va pas s'inscrire sur la période électorale. Nous, on décide de ne pas s'inscrire sur la période électorale. Ça veut dire qu'on décide de s'inscrire après la période électorale. Parce qu'à un moment ou un autre, on le sait très bien. 2014, il y a eu des élections. Tout le monde était excité. Tout le monde est parti. 2020, il y a les élections qui arrivent. Tout le monde revient. Donc, à un moment ou un autre, si nous, les habitants des quartiers populaires, on ne se dit pas « Oh, il y a un problème, on est abandonné pendant des années, d'un coup, on voit des figures qui reviennent. » Et c'est ça qui est un peu agaçant, qu'on ne peut pas construire quelque chose de correct. Comment on fait pour construire? Parce qu'aujourd'hui, avec le collectif du 5 novembre, avec ce qui s'est passé sur Marseille, il y a eu des collectifs, il y a eu des manifestations, il y a des gens qui travaillent tous les jours sur les territoires qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui travaillent comme des petites fourmis. Comment on fait pour travailler avec ces gens-là? Pour montrer ce qu'ils font aussi, parce que c'est important, un peu de reconnaissance par rapport à toutes ces petites associations qui sont en train de crever. Et comment on fait pour ramener le politique? Pour pas qu'il fasse sa carrière, mais pour ramener un homme politique, lui dire voilà, dans les quartiers ou dans le centre-ville, il y a des choses qui se passent, et comment on fait pour prendre cette parole-là et la remettre en politique? Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut pas
c'est
qu'on
exactement
travaille.
Ce qu'on essaie de fabriquer.
Voilà. Il faut pas qu'on travaille à l'envers, parce que les échéances électorales, tout le monde est excité là comme des puces, tout le monde frappe tout le monde se dispute avec tout le monde invente des choses sur tout le monde. En 2020, après mai 2020, on verra ce qui va se passer. Et moi, je pense qu'il ne faut pas s'inscrire sur les listes, sur le planning électoral. Faut pas s'inscrire
pas la même chose tout à l'heure en parlant de liste citoyenne.
Oui, liste citoyenne, mais moi, je ne le ferai pas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui le feront. Mais moi, personnellement, je ne vais pas m'inscrire sur... moi, le 2020 arrive. 2020, je m'en fous. 2020, on va faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il faut absolument voter. Parce que nous, on est dans un territoire Front National. Qu'il faut que le Front National parte. Et que peut-être que ça sera une liste citoyenne dans le 14e qui pourra gagner les élections. Mais là, je suis pas en train de me contredire. Hein. Je dis qu'il y a une liste citoyenne, c'est très bien. Avec qui? Avec des hommes politiques ou avec des gens comme Kevin ou
pardon.
Kevin a l'air étonné de savoir qu'il est sur une liste.
Je lui propose. Mais après, c'est si on s'inscrit sur parce qu'on a l'habitude de s'inscrire sur les plannings des élections et des institutions. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. quand on parle des délogés, on ne va pas attendre 2020 pour reloger ces personnes. Ces personnes, il faut qu'ils soient relogés maintenant. Donc si on attend 2020, ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a un travail qui se fait par rapport au collectif. Et ça, c'est un travail qui, au moment des élections, va montrer la clarté du travail que les associations ou les collectifs font. Il ne faut pas qu'on se prenne...
Si je peux donner un exemple de ce que j'entends comme pour moi étant le véritable enjeu, et je rebondis sur que tu parles justement des délogés qui doivent être relogés maintenant, c'est quoi la situation avant en fait à Marseille? Moi je me souviens dans mes premières enquêtes d'avoir observé des amis à nous, des militants qui se situent à l'extrême gauche, qui sont des syndicalistes, qui au contact des élus vont avoir des discussions du type de voilà, nous on est tant d'habitants ici, qu'est-ce que tu nous donnes? En réalité, ce que donne l'élu en général, c'est comme ça que fonctionne réellement le clientélisme, parce qu'on parle toujours de la face la plus dégueulasse du clientélisme, celle où il y a un logement, un emploi qui est donné à contrario des règles élémentaires. Mais la plupart du temps, le clientélisme, en fait, c'est de faire croire qu'on vous a donné quelque chose, de dire « oui, 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 je vais faire passer ton dossier en commission d'attribution des logements ». En réalité, le dossier, il est déjà prêt, il passerait dans tous les cas, et on fait croire que, et y compris, du coup, des acteurs... situé à l'extrême gauche, en termes idéologiques, je veux dire, hein, pas forcément des militants d'extrême gauche, mais qui votent à l'extrême gauche, par exemple, vont être dans ce rapport-là aux élus. Dans la question des délogés ces derniers mois, le nombre de fois, c'est hallucinant, où j'ai vu, en particulier, une certaine élue dite de gauche des quartiers nord, que je ne citerai pas, qui va.
Elles ne sont pas nombreuses.
Ah bon, c'est vrai? Qui va discuter avec des délogés, voire des sinistrés, en leur proposant une imprimante dans son bureau à la mairie pour les aider, et qui, en retour. Qui va dire je vais appuyer votre dossier par rapport à un relogement ou d'autres situations, je ne rentrerai pas dans les détails, qui en retour se voit remercier, y compris publiquement, par des acteurs, des victimes, hein, des personnes qui sont, voilà, qui sont dans cette situation-là. Quoi. Ces gens-là le font de manière très sincère. Ils ont l'impression qu'un élu leur a rendu un service. En réalité, on parle, là je prends l'exemple le plus caricatural, hein, de pouvoir prêter une imprimante et du papier et de l'encre. Donc c'est ce mode-là aussi qu'il faut arriver à ce mode de rapport aux politiques, il faut arriver à changer, c'est que nous-mêmes, y compris lorsqu'on est dans des mobilisations collectives, lorsqu'on est entouré, lorsque idéologiquement on est formé, qu'on arrête de se projeter vis-à-vis des élus de cette façon-là. Et ça, c'est extrêmement profond.
Michel ?
Finalement, si je si vous caricature en disant peu importe, vassal...
On revient du concret au calendrier.
Au calendrier, Gilles, Mélenchon... Est-ce que vous iriez jusque-là en disant là, le plus important, c'est d'affirmer nos valeurs, de faire porter une parole, de faire avancer les dossiers, de mettre en place des contre-pouvoirs, de changer les pratiques, mais peu importe qui sera l'interlocuteur. Est-ce que vous allez jusque-là? C'est un peu le discours de Fatima en disant je saute la case de 2020. 2020, d'autres feront, mais il faut pas. Il y a plus urgent à faire. Il faut faire participer les gens. Il faut construire. Non.
Non, non, mais.
Précisez-vous.
Tu raccourcis tout ce que je dis. J'irai pas discuter avec le Front National.
Ça, on a bien
d'accord
compris.
Moi, Bruno Gilles, je le connais pas. Je sais qu'il est élu, mais je le connais pas. Mais moi, dans mon secteur, je discute avec l'élu qui est élu dans mon secteur au niveau de la politique de la ville.
L'enjeu, c'est pas de mettre des noms. Là, l'émission va se terminer.
Voilà,
mais est-ce que peu importe finalement l'étiquette du capitaine, et, il faut que la ville se mette en mouvement, ou est-ce qu'il y a quand même un enjeu sur cette élection de qui va l'emporter et de comment on fait pour que celui qu'on préfère l'emporte? Est-ce que voilà, c'est ça
moi,
la question.
Moi, j'ai pas d'homme politique préféré pour qu'il l'emporte. Alors, je suis en train de me poser la question si en 2020, je vais voter ou je vais pas voter. Donc voilà, c'est clair. Hein, aujourd'hui, moi, j'en suis là. J'ai pas. Quand je te dis ça tout à l'heure, c'était comment nous, les associatifs, on amène les habitants à voter au, que n'importe quel candidat. Comment on amène l'habitant à voter pour un candidat qui, lui, il a choisi pour des valeurs. On arrête de mener les élections, comme le dit Kevin, pour un appartement pourri qui se trouve dans les quartiers nord. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut faire changer dans nos quartiers.
Kevin, en deux mots, on a peu de temps, mais il faut prendre le temps. Par rapport à... Tant pis pour le calendrier institutionnel, il faut pousser jusqu'au bout la brèche qui s'est ouverte, c'est ça la réflexion, en quelques mots.
Il faut arriver à structurer ce qui vient de se produire ces trois derniers mois sur le long terme. C'est ça l'enjeu. Et de là déclineront beaucoup de choses.
Et Olivia Fortin, vous allez signer le manifeste pour un Marseille vivant et populaire, le collectif Madmar, ça serait possible
ça? Complètement, ça serait complètement possible, bien sûr. Et pour nous, pas du tout, peu importe, hein, pour vous répondre. Au contraire, on pense que beaucoup de changements sont possibles s'il y a une volonté politique forte de les distiller.
On vous remercie. Allez, on se retrouve au mois prochain. Bye.